Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Avec MCM.
Nous sommes le mardi 24 février, c'est parti pour le journal de la mi-journée présenté par Antoine Samoyau. Bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour les consommateurs en ce début d'année 2015. Après la deuxième baisse des prix du carburant en deux mois, le gouvernement a annoncé hier une baisse de 4 à 9 % des tarifs de l'électricité. Vous entendrez le président du pays, Édouard Fritch, et le PDG d'EDT dans ce journal. Aldo Tirao, finalement condamné, le président du service pénitentiaire d'insertion et de probation a écopé ce matin de 4 mois de prison avec sursis. Une peine relativement légère, mais qui pourrait signer la fin de sa carrière, vous l'entendrez. Enfin, je reçois ce midi Laurent Devémy. Il est le président de l'association Tahiti Congrès et viendra nous parler du premier congrès des ressources humaines organisé en Polynésie. À tout de suite.
Et on démarre avec la bonne nouvelle du jour, le prix de l'électricité va baisser en Polynésie.
Une semaine après l'annonce de la baisse des prix du carburant, le président Édouard Fritch et le PDG de la société EDT, Hervé Dubost-Martin, ont annoncé hier la baisse à venir des tarifs de l'électricité. Une annonce faite lors de la signature à la présidence hier d'un nouvel avenant à la convention liant le pays à EDT. La signature de cette convention faisait suite au jugement du tribunal administratif de 2013 qui demandait plus de précision et de transparence au niveau du mode de calcul des tarifs de l'électricité. Les deux parties ont remis les choses à plat et ont annoncé hier une baisse globale pour l'ensemble des consommateurs. Cette baisse, c'est la répercussion directe de la chute des cours du pétrole et du retour à l'équilibre du fonds de régulation des prix des hydrocarbures, le fameux FRPH. Alors dans le détail, cette baisse atteindra 4% pour l'ensemble des ménages et 9% pour les plus petits consommateurs. Écoutez les précisions du président du pays, Édouard Fritch, interrogé par Vaïté Ourari Pambrin.
C'est une très bonne nouvelle naturellement pour nos consommateurs puisque l'électricité est aussi une part importante des budgets des ménages. Globalement et en moyenne, il sera en baisse de 4% pour l'ensemble des différents types de consommation. Mais c'est vrai que pour les tout petits consommateurs, cette baisse sera de l'ordre de 9%. Donc effectivement, dans les discussions, nous avons souhaité privilégier les petites familles qui ont des consommations naturellement plus raisonnables que les autres.
Président, est-ce à dire alors si les hydrocarbures varient de prix, est-ce que ça va être répercuté par rapport au prix de l'électricité?
Effectivement, si le prix du baril venait à augmenter, le prix à la pompe risque de suivre cette augmentation. Ceci nous permet effectivement de coller à la réalité des choses et éviter cet appel permanent au FRPH qui est là effectivement pour lisser les fluctuations, mais ne répercute pas nécessairement les variations du coût des hydrocarbures.
De son côté, le PDG d'EDT, Hervé Dubost-Martin, a évoqué d'autres éléments de cet avenant. Et une fois encore, il a taclé le surcoût lié aux producteurs solaires qui se ressent pour 2% sur la facture de chaque consommateur. Écoutez.
Cet avenant, en fait, il enregistre d'autres aspects qui, eux, vont à contrario, hein, notamment les surcoûts liés aux producteurs solaires, conditions qui sont faites notamment à l'autoconsommation solaire, qui est une option de politique énergétique qui n'est pas contestable, hein, qui est un peu la même dans tous les pays du monde, de favoriser le développement du solaire. Il faut savoir simplement que ça a un coût et qu'aujourd'hui, le coût supplémentaire de ce développement du solaire sur les systèmes polynésiens, on l'estime à peu près à 2,5% de la facture EDT.
Alors, tout à l'heure, vous parliez d'une capacité qui puisse être libérée pour servir l'économie du pays, c'est-à-dire
oui. Je pense par exemple à un projet comme la Vaïcha, qui avait fait l'objet de propositions par EDT en 2009. Ces propositions, à l'époque, avaient été enterrées. Et depuis 2009, force est de constater que ce projet, il ne s'est pas passé grand-chose, on va dire. Hein.
Notons que la signature d'hier était celle d'un avenant provisoire dans l'attente, et je cite les propos de la présidence, de la définition d'une nouvelle formule tarifaire de l'électricité.
Un mot de justice à présent avec la condamnation ce matin du directeur du SPIP, Aldo Tirao.
La décision était attendue. Le tribunal correctionnel de Papeete a condamné ce matin le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, Aldo Tirao, à 4 mois de prison avec sursis pour complicité d'escroquerie à un jugement. Le directeur du service avait réalisé une fausse attestation pour couvrir les absences d'un de ses amis, un professeur qui enseignait à Noutania, et ainsi lui permettre d'encaisser des salaires pour un travail qu'il n'avait pas fourni. Cette condamnation condamnation reste légère, mais elle pourrait sonner la fin de la carrière du directeur du SPIP. En effet, la fonction publique interdit à ses fonctionnaires d'avoir un casier judiciaire. Aldo Tirao est d'ailleurs suspendu de ses fonctions depuis le début de cette affaire.
Et un mot d'économie, c'est finalement aujourd'hui qu'Air Tahiti va choisir le constructeur pour Tahiti-Nui pour le renouvellement de sa flotte.
Airbus ou Boeing, c'est un débat qui agite le landerneau politique, financier et même médiatique depuis une semaine en Polynésie. Jeudi dernier, le conseil d'administration d'Air Tahiti-Nui avait arrêté une position sur cette question cruciale du choix du constructeur pour le renouvellement de ses appareils en 2020. Un choix cornélien, puisque c'est celui de rester avec le français Airbus, question de patriotisme national, ou de partir avec l'américain Boeing, qui semble proposer une offre plus alléchante. C'est en tout cas l'indiscrétion révélée par la Dépêche la semaine dernière. Mais depuis la décision de jeudi, un nouveau conseil d'administration extraordinaire a été convoqué pour aujourd'hui. Selon nos sources, il s'agit d'éléments d'appréciation nouveaux qui sont apparus au cours des négociations. Les administrateurs prendront donc une position définitive ce soir sur le choix d'Airbus ou de Boeing, position qui sera transmise au pays, actionnaire majoritaire de la compagnie, et qui devrait être examinée puis communiquée demain en conseil des ministres.
Une pause dans ce journal à 12h06, on revient pour parler du crash d'Air Montréal et accueillir notre invité. Retour au journal, Antoine, et on reprend avec le procès au civil de l'affaire du crash d'Air Montréal qui débute cette semaine.
Le procès sur les intérêts civils du crash d'Air Montréal doit se tenir jeudi après-midi au palais de justice de Papeete. Les avocats des parties civiles sont arrivés ce week-end de métropole pour demander réparation du préjudice subi par les familles des 20 victimes de la catastrophe du 9 août 2007. La dernière audience sur les intérêts civils avait été renvoyée, mais cette fois-ci, le président de l'association de défense des victimes du crash, Nicolas Fourreau, a reçu l'assurance que le procès aura bien lieu. Écoutez.
La dernière fois, 10 ou 15 jours avant l'audience civile, les avocats qui avaient réservé leur hôtel et billets se sont eu dans l'obligation d'annuler puisqu'il y a eu des effets de procédure tout à fait indépendants de notre volonté. Donc effectivement, ce jeudi devrait se tenir la partie civile qui statuera sur la reconnaissance des traumatismes multiples qu'ont subi les familles des victimes qui ont disparu dans le crash d'Air Montréal.
Pour l'instant, on en est uniquement sur la reconnaissance du préjudice, ou est-ce qu'il y a un chiffrage qui a déjà été fait de ce que vont demander les familles?
C'est très disparate, d'abord parce qu'il y a des intérêts économiques différents, puisque ça se calcule aussi en fonction des revenus des disparus, mais au-delà de ça, il y a des familles qui ont décidé d'opter, certaines en tout cas, pour des transactions qui restent confidentielles, pas tant par leur souhait, mais c'est parce que les assurances ne souhaitent pas communiquer sur ce genre de sujet pour éviter que ça fasse jurisprudence.
On le sait, l'instruction pénale de l'affaire du crash d'Air Montréal traîne en longueur suite aux nombreux recours intentés contre les actes de la procédure. Un procès pourrait néanmoins avoir lieu fin 2015. Et la curiosité de ce dossier, c'est donc que le volet civil de l'affaire serait audiencé avant le volet pénal. Une situation assez rare qui désespère Nicolas Fourreau.
On arrive à des situations complètement hallucinantes où les responsables des faits sont complètement tranquilles aujourd'hui. C'est très rare, par des effets de procédure extrêmement importants, puisqu'il y a un des mises en examen qui fait des pourvois en cassation dès qu'il le peut et sur toutes les pièces. Donc on espère néanmoins que le procès se tiendra fin 2015, mais c'est effectivement assez peu courant ce scénario-là où la partie civile intervient avant la partie pénale, alors que il faut être très honnête, que ce soit le BOA ou d'autres experts ont reconnu les fautes et les carences de la compagnie.
Et on passe maintenant à notre invité dans ce journal pour parler d'un rendez-vous à venir, le Congrès des ressources humaines.
3 jours de rencontres avec des intervenants de prestige venus notamment du Québec, de Belgique, de Métropole, de Nouvelle-Calédonie et bien sûr du Fénois. C'est le programme du tout premier Congrès des ressources humaines organisé en Polynésie du 11 au 13 mars prochain au Méridien. Pour parler de cette initiative inédite, je reçois ce midi le président de l'association Tahiti Congrès, Laurent Devémy. Laurent, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Alors, première question, pourquoi organiser un congrès des ressources humaines? À quoi est-ce que ça sert concrètement?
Ça n'a jamais été fait. Je pense que ça intervient aussi à un moment où l'économie du pays n'est pas vraiment dans un très très bon état. On a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui, tant mieux. En même temps, on sait que le moral général des entreprises n'est pas au plus haut fixe. La motivation des collaborateurs n'est pas au plus haut non plus. Et aujourd'hui, un des points, c'est de se dire, mais est-ce qu'on est les seuls dans le monde? Non, on n'est pas les seuls. Il y a des autres pays qui connaissent le même type de marasme que nous. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps de regarder ce qui se passe ailleurs? Donc, l'objectif de ce congrès, c'est de faire venir des personnes de l'extérieur, secteur public, secteur privé, qui puissent nous apporter d'autres éclairages que ce qui est fait aujourd'hui.
Alors justement, qui seront les intervenants qui viendront pendant ce congrès?
Et c'est une bonne question. On a un plateau absolument exceptionnel d'intervenants. On a des intervenants qui viennent du Québec. Alors pourquoi le Québec ? Parce que c'est un des pays qui partage beaucoup de caractéristiques avec les nôtres et qui est en même temps extrêmement réputé pour la qualité de ses ressources humaines. La façon dont aujourd'hui ils utilisent leur patrimoine humain, parce que la notion de capital humain fait un peu capital, la ressource. On l'appelle ressources humaines, mais c'est vraiment la notion de patrimoine humain. Des gens qui viennent du Québec, des gens qui viennent effectivement, des intervenants qui viennent de France, de Belgique aussi. On a notamment la DRH européenne de l'année, Laurence Vanet, qui vient, qui a déchiré sa carte de DRH en Belgique pour se faire appeler directrice du bonheur, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel au travail. On a aussi des intervenants néo-calédoniens, puisqu'on veut faire une dimension pacifique importante, et bien sûr du fénois.
Alors les intervenants du fénois, est-ce qu'on peut dire déjà de qui il s'agit ?
Non.
Non.
Si, bien sûr que si.
Dommage.
Bien sûr que si. Oui, dommage. Hein. Normalement, je fais payer ce genre de choses, mais bon, aujourd'hui, je ne les ferai pas payer. Nous avons en fait 5 personnes qui viennent, qui sont vraiment des personnes avec des parcours et des personnalités extrêmement différentes. Nous avons un sportif de haut niveau, Marama Vairiroa, qui viendra avec Charles Rozoa, qui est aussi un champion paralympique, pour nous parler de l'engagement et de la motivation. Nous avons également Claude Panero, la directrice des impôts et des contributions. Alors que fait la direction des impôts et des contributions ? Elle n'est pas là pour s'occuper des recettes fiscales, elle est là pour parler de la démarche qu'elle a mise en place au niveau de ses équipes pour aujourd'hui révolutionner complètement le mode de fonctionnement de l'administration fiscale et en faire quelque chose qui est très très centré au niveau des collaborateurs d'une part, mais aussi et surtout des usagers, presque des clients de l'administration fiscale. 3 autres personnes également qui viennent, Pierre Frébeau, Luc Tapeta pour nous parler du dialogue social. Et enfin, nous avons une 5e personne qui viendra de façon complémentaire sur ce congrès, qui est, et j'ai un trou, et j'en suis absolument désolé, mais vous avez toute l'information sur tahiticongrès.com, notre site web.
Comment est-ce que ça va se passer concrètement sur ces 3 jours? Comment on va s'organiser justement ce congrès?
Bien. Oui, non, pardon. On a assez peu de temps devant nous. L'objectif, c'est de démarrer le mercredi soir en fin de journée par une conférence d'ouverture de 17 à 18h. Ensuite, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes qui viennent participer au congrès, puissent partager au maximum l'ensemble des différents éléments. Donc, nous aurons des conférences qui dureront 1h30, avec un temps partagé de à peu près moitié-moitié entre les intervenants et les conférenciers, et puis d'autre part, ceux qui sont le public, de façon à ce qu'ils puissent poser toutes les questions nécessaires pour se dire comment on peut faire aujourd'hui, comment on peut aujourd'hui mettre le patrimoine humain au cœur du développement des entreprises, secteur public comme secteur privé, et faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse donner un coup de booster à l'économie du fénois.
Alors le but justement c'est qu'il y ait un échange et à qui est-ce qu'il se destine ce congrès des ressources humaines ?
Il n'y a que des bonnes questions dans cette émission, c'est extraordinaire. Il se destine principalement, on l'a appelé improprement congrès des ressources humaines. Aujourd'hui j'ai envie de dire il se destine essentiellement à tous ceux qui ont la charge de développer ce patrimoine humain, c'est-à-dire les cadres, les dirigeants d'entreprise, les responsables des ressources humaines évidemment, mais aussi tous ceux qui sont autour. Les syndicalistes, les professionnels de santé. On a notamment une intervenante qui vient du Canada qui s'appelle Dr Sonia Lupien, qui nous parlera de stress, travail, performance. Donc vraiment aujourd'hui, tous ceux qui sont concernés par la logique de ressources humaines peuvent venir. Point important, dans le secteur privé, le Fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle nous accompagne dans cette démarche. Donc les entreprises qui cotisent au fonds paritaire peuvent voir effectivement leur investissement de formation, puisque c'est un investissement. C'est vrai, c'est 2 jours. J'entends souvent ça. Ouais, mais c'est 2 jours, on n'a pas le temps, on travaille le samedi, le dimanche. D'accord, combien de temps ça va durer? Prenez une pause de 2 jours, allez au congrès, ça vous donnerait d'autres idées pour faire les choses autrement demain.
Justement, est-ce qu'on peut s'inscrire? Est-ce que c'est gratuit? Comment ça marche à ce niveau-là?
Alors, vous imaginez bien, j'ai 20 intervenants à faire venir, il y en a 5 qui sont heureusement sur le fénois. Sur ces 20 intervenants, effectivement, il y a des frais de déplacement, des frais d'hébergement. Donc le congrès n'est malheureusement pas gratuit aujourd'hui. Nous avons voulu le faire sans demander des fonds publics, donc on le finance sur fonds propres avec l'aide de nos partenaires. Pour s'inscrire, c'est assez simple. Nous avons un site web, www.tahiticongrès.com, dans lequel il y a un bulletin d'inscription qui est téléchargeable. Et aujourd'hui, les frais d'inscription sont de 150 000 francs pour le secteur privé, avec cette logique qui est qu'aujourd'hui, ça rentre dans le cadre de la formation professionnelle. Et puis là, on a un événement qui est tout à fait exceptionnel.
Très bien. Les dates limites pour l'inscription, pour l'instant, c'est
jusqu'au 2 février. On va sans doute le reporter puisqu'on a une semaine qui est la semaine prochaine avec l'arrivée de l'évangile qui coïncide. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que ça coïncide avec l'arrivée de nos premiers conférenciers. Je sais pas si c'est un hasard. C'est une autre bonne nouvelle aujourd'hui dans le journal. La date limite, nous allons le reporter au 6. Après, derrière, pour des questions de gestion des inscriptions, ça sera relativement compliqué derrière.
Très bien. Laurent Devemy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce midi et donc à très bientôt pour ce congrès.
Avec plaisir. Et je suis vraiment consterné d'avoir oublié le nom du dernier intervenant polynésien, mais il était aussi exceptionnel.
Vous le retrouvez de toute façon sur notre site radio1.pf où nous reviendrons sur justement cette interview de ce midi.
Et on termine avec un autre rendez-vous, mais culturel. C'est la pièce Le Porteur d'Histoire qui démarre au Grand Théâtre.
Le Porteur d'Histoire, la pièce d'Alexis Michalik, jouée depuis 2013 à Paris et en province, qui débarque à Tahiti pour 3 semaines de représentation à partir du 5 mars prochain. La pièce, qui a déjà remporté un beau succès public et critique, avec notamment 2 Molières, ouvre la programmation 2015 de la troupe du Caméléon, qui fête cette année ses 10 ans. Cette pièce, c'est l'histoire de Martin, un homme d'une 40aine d'années, qui découvre à la mort de son père un manuscrit qui va le conduire d'un pays à un autre, de continent en continent, à des époques différentes. Guillaume Guay de la troupe du Caméléon décrit cette pièce comme une épopée littéraire ou un road movie au théâtre. Une pièce portée par 5 comédiens dont le jeu ne l'a pas laissé insensible. Écoutez Guillaume Guay au micro de Samia Stambouli.
Donc c'est un spectacle qui comporte beaucoup de suspense. Je dirais que c'est un peu comme une épopée littéraire, un peu à la Alexandre Dumas. D'ailleurs, Alexandre Dumas est l'un des personnages du spectacle. Ou un road movie au théâtre. Ce qui m'a plu, c'est d'abord le jeu des comédiens. On a 5 comédiens qui sont formidables. Mais c'est avant toute chose, merveilleusement bien joué. Et puis, je crois que c'est le procédé aussi qui m'a plu. On est vraiment projeté dans notre plus tendre enfance, où le procédé qui consiste à ouvrir une malle, à récolter des costumes, à enfiler un costume et d'un seul coup se dire bien voilà, maintenant je suis la marquise de Pompadour, ou bien je suis maintenant Alexandre Dumas, ou je suis un tel et un tel. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que il y a 5 comédiens qui jouent énormément de personnages, on passe d'histoire en histoire, on joue. En fait, ça joue. On est vraiment à l'essence même du théâtre, à mon goût, avec une histoire extrêmement élaborée, bien sûr, qui nous tient en haleine jusqu'au bout.
Le Porteur d'Histoire ouvre le bal pour cette année 2015 pour la compagnie du Caméléon, un cru particulier pour la compagnie qui souffle ses 10 bougies. Cette année, Guillaume Guay veut maintenir une programmation exigeante et surtout éclectique. Des jongleurs belges, des punks ukrainiens, une compagnie théâtrale allemande et quelques autres belles surprises nous attendent sur les scènes du Fénois.
En avril, on sera au Grand Théâtre. Alors, je ne peux pas encore complètement dévoiler le spectre. Voilà, tout n'est pas complètement calé, mais ça va être une belle surprise. Ensuite, on va se retrouver au mois de septembre avec Hôtel Paradiso par la compagnie Family Flutes, qui est une compagnie allemande. Ce sera une comédie masquée avec une foultitude de personnages, mais cette fois-ci sous un masque. Ensuite, on aura une 3e édition du Festival Voyage avec pour thématique cette année la femme dans le monde. Et puis aussi cette année, pour la première fois, une scène internationale avec notamment les Dark Daughters, qui est un groupe en provenance d'Ukraine, qui a pris part notamment de façon importante aux récents événements, qui porte une parole politique engagée dans ce pays. Et puis ensuite, au mois de novembre, on va accueillir un spectacle qui s'appelle Mètre Carré, qui est un spectacle de jonglage par une compagnie belge, où le jonglage est un outil au service d'une proposition théâtrale.
Le Porteur d'Histoire, c'est pas moins de 9 représentations du 5 au 21 mars. Les tarifs sont compris entre 2500 et 4000 francs. Et les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, Arouet, à Radio 1 Faleouté et sur la billetterie en ligne radio1.pf.